Il n'y en a pas, mais... Alors, je vois un jeune enfant qui lève la main. Aucun des adultes, ça commence à m'effrayer. Hein. Vas-y, dis-moi. 8h45, merci, c'est bien cela. Ça va vous être redit tout à l'heure en annonce, et puis il y aura d'autres infos qui vous seront données à ce propos-là. Mais voilà, notez bien que malgré le changement d'heure, vous viendrez au culte à peu près à la même heure. C'est le miracle du changement d'heure pour vous la semaine prochaine. On va vous faire venir plus tôt, mais par rapport au soleil, ça ne va rien changer pour vous. Donc vous n'aurez pas d'excuse pour être en retard. Attention à vous. Et je le dis avec beaucoup de gentillesse, croyez-moi. Alors, j'en arrête là avec ma petite blague à propos de ce temps particulier que nous aurons la semaine prochaine et qu'on va expliciter un peu plus tout à l'heure. J'en viens surtout à vouloir partager cette parole fraternelle avec vous, puisque nous en sommes dans ce moment dit de la prédication. Et je m'intéressais à deux petites paraboles ce matin, dont je vais vous donner tout à l'heure le titre, pas le titre que je pourrais donner à ma prédication, je verrai le transmettre tout à l'heure à Matthieu à la fin. Mais Jésus, lorsqu'il fut présent parmi les hommes, eut souvent recours à des paraboles. Je suis sûr que vous en connaissez pour beaucoup au moins une, voire quelques-unes, au moins par leur titre ou peut-être par un peu leur contenu, voire peut-être même par cœur. Certaines sont assez denses, assez longues, d'autres sont très très courtes. Mais oui, Jésus a eu souvent recours à des paraboles pour expliquer des réalités spirituelles importantes, comme notamment ce qu'est le royaume des cieux. Et à ce propos, dans le premier des évangiles, l'évangile de Matthieu, Jésus en enseigne tout ce que peut représenter le royaume des cieux. Et il va prendre là le temps de le dire à travers tout un ensemble de paraboles. Alors nous allons nous prendre deux qui sont plutôt courtes et simples. Et surtout, oui, qui se font brèves. On pourrait d'ailleurs, parce que quand nous les lisons, elles se contiennent en trois versets. Hein. Quand nous les lisions, on pourrait d'ailleurs les confondre tant elles se font semblables. Et pourtant, alors je vous propose de les méditer ce matin ensemble pour en percevoir la richesse et de la parabole du trésor, parce que c'est comme ça souvent qu'elle apparaît dans le petit titre qui y a été ajouté, qui n'existe pas à l'origine, et puis de cette autre parabole qui la suit, qu'on appelle aussi la parabole de la perle. C'est là aussi le titre souvent que vous verrez apparaître dans vos Bibles. Et je tiens à ce propos, puisque ce partage que je fais avec vous, c'est dans l'échange aussi avec d'autres frères, même des confrères, des amis aussi, qui sont pasteurs dans d'autres églises baptistes de notre fédération, l'un à Marseille, l'autre à Compiègne, ce sont mes grands amis Arnaud et Nicolas d'ailleurs, qui m'ont enrichi dans ce regard et cette réflexion autour de ces deux paraboles. Donc voilà, je ne pouvais que saluer et les remercier aussi de ce qu'ils m'ont apporté, que je veux partager avec vous maintenant. Donc prenons l'évangile de Matthieu en son chapitre 13 et des versets 44 à 46. Matthieu, chapitre 13, les versets 44 à 46. La lecture sera assez brève, vous allez voir. Et comme à mon habitude, ou presque, je vais le lire dans la traduction du Semeur. Il ne devrait pas y avoir de grandes variations avec votre propre Bible. Alors, Matthieu 13, les versets 44 pardon, à 46. Écoutons. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Voilà ces deux paraboles, certes brèves, si semblables, sur lesquelles nous allons nous arrêter ce matin. J'espère qu'elles vont nous nourrir tous un peu plus dans notre foi. Je vais en prendre tout d'abord une première, celle que nous avons entendue tout d'abord, celle que l'on appelle d'ailleurs la parabole du trésor. Et je viens avec une première question. Quel est ce trésor que l'homme découvre? Je vous en donne la réponse qui semble la plus évidente et certainement la plus juste. Ce trésor est le message de l'Évangile. Et sa découverte change fondamentalement l'existence de quiconque la découvre. Notez d'ailleurs que la parabole ne nous dit pas comment l'homme a trouvé ce trésor. Il l'a juste trouvé. Ça ne va pas plus loin. Et ce qui compte, d'ailleurs, ce n'est pas tant la manière de découvrir ce trésor que la découverte elle-même. Et c'est pour cela que la parabole ici se fait brève. L'important, c'est la découverte. Peut-être même que cet homme avait auparavant entendu parler de ce trésor, mais ce qui est sûr, c'est que quand il le découvre, alors tout change pour lui. Regardez ce qu'il fait. Cela semble complètement aberrant ou absurde, et pourtant cela souligne quelque chose d'important. Il ne peut plus rester comme il était avant. Tout a changé pour lui. Et qu'est-ce qui change chez lui? Ce qui change, tout d'abord, et on l'entend et cela est dit, c'est sa joie. Il est même dit, il est débordant de joie ici. C'est la joie de la découverte, l'émerveillement face au trésor. C'est ce qu'il se passe quand on entend l'Évangile, quand on entend la révélation du salut de Dieu qui nous est offert. La joie est vraiment une dimension majeure de l'expérience du chrétien. Et c'est bien pour cela que la louange, sous toutes ses formes, est si importante dans la vie chrétienne. Dieu est un Dieu qui est un Dieu de joie et qui désire aussi que nous puissions connaître cette joie, le plus souvent. La joie du chrétien qui a découvert Dieu par la personne et le message de la réconciliation de Jésus, voilà un peu aussi quel est le cœur de cette première petite parabole. Mais la parabole, cette parabole du trésor ne s'arrête pas là. Car cette découverte, nous l'entendons, vaut largement le coup de tout liquider pour pouvoir bénéficier pleinement du trésor. C'est une parabole, ne le prenons pas trop à la lettre. Qu'est-ce qu'il faut entendre ici? Nous entendons bien sûr que l'homme vend tout ce qu'il possède parce que le trésor qu'il a trouvé est plus cher, plus beau, plus précieux que tout ce qu'il possède. Et pourtant, notez-le bien, parce que parfois on l'oublie dans la parabole, il ne va jamais payer le prix ou la valeur réelle de ce trésor. Il vend tout pour acheter ou se contenter d'acheter le terrain qui, lui, contient et renferme le trésor, qu'il a d'ailleurs recaché un instant, parce qu'il désire l'avoir, ce champ-là, pour bénéficier du trésor. Autrement dit, il va devoir tout vendre pour bénéficier de ce champ, et bonus suprême, dans ce champ, même s'il le sait déjà, il y a ce trésor qu'il va après pouvoir garder. Oui. Mais pour jouir de ce trésor, comprenons-le, ce qu'il faut vendre, c'est une idée de renoncement. Et pour cet homme-là, en fait, ce qu'il s'agit, comme pour nous, c'est qu'il va falloir accepter nombre de renoncements dans notre existence. Pour le dire encore autrement, le choix de l'Évangile, de la vie avec Dieu, c'est le renoncement à la vie sans Dieu. C'est le renoncement à ce que représentait sa vie avant d'avoir découvert au milieu de ce champ, ce trésor. Il y a donc bien cet abandon, ce choix qui nous est coûteux. Ce choix qui même peut sembler ou paraître risqué d'une certaine manière. Le choix de lâcher ce qui nous est nôtre pour ne garder qu'une chose, Jésus lui-même. Dit encore autrement, à travers ce que nous entendons dans cette première parabole, c'est l'engagement de toute une vie pour un bien plus grand, pour une joie plus grande, pour un trésor éternel. Voilà le message fort encore de cette parabole. Et c'est ce que nous faisons quand nous décidons de suivre Jésus. Nous abandonnons notre vie passée pour entrer dans une nouvelle vie avec lui. Nous choisissons d'abandonner le péché, d'abandonner certaines pensées, idéologies, et on pourrait rallonger encore la liste. Et surtout, nous renonçons à vivre pour nous-mêmes. Et choisissons donc alors de vivre pour Jésus. Et si nous le faisons, c'est parce que Jésus est plus précieux que tout. Nous le faisons donc joyeusement, car ce n'est pas une contrainte, même si cela est coûteux. Et il ne faut pas le confondre, même si parfois aussi cela peut représenter un combat intérieur, de renoncer à cette vie ancienne, de renoncer à ceux qui, quelque part, étaient un petit peu au cœur de notre vie, de nos attachements. Voilà donc à quoi ressemble le royaume des cieux. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait la découverte de ce trésor qu'est l'Évangile, qu'est Jésus lui-même, et que cette découverte a radicalement changé votre vie. Et d'ailleurs, notez que le baptême chrétien que nous professons, nous, dit cela par le geste de ce baptême-là. Mais bien sûr, quand on a un trésor, quand on vit avec, parfois, on oublie aussi à quel point ce trésor est précieux, important, merveilleux. On en oublie, oui, sa préciosité, peut-être parfois. Cette parabole aussi vient nous rappeler ce bien précieux que beaucoup parmi nous ont reçu. Nous avons découvert l'évangile de la vie éternelle, la vie avec Dieu, à jamais. La joie de le suivre, de le connaître, la joie du pardon, la joie du salut. C'est tout cela l'évangile. Et l'on comprend mieux pourquoi Jésus use d'une si courte parabole qui semble si aberrante d'un homme qui est prêt à tout vendre juste pour acheter un champ parce qu'il y a un trésor au milieu. Mais ce trésor est plus que tout. Et rappelez-vous, il ne l'achètera jamais au prix de à sa valeur, ce trésor. Il bénéficie d'un grand rabais parce qu'il ne fait qu'acheter le champ. Il est malin. Hein, il ne va jamais déclarer ce qu'il y a dedans quand il va acheter le champ. Ça montre à quel point ce trésor, nous ne pourrons jamais nous l'acheter, mais qu'il nous est offert, mais qu'il demande cet abandon, ce renoncement. Aussi, n'en oublions pas que nous avons reçu un trésor. Et puis, s'il y a aussi parmi nous d'autres personnes, d'autres situations, des situations où, justement, des personnes parmi nous n'ont pas encore fait la pleine découverte de l'évangile de Jésus, de ce trésor, ou ne l'ont pas encore reconnu à sa juste valeur, peut-être alors avez-vous entendu parler de lui, mais sans avoir encore pris possession de ce champ. Peut-être la valeur de ce trésor aperçu dans ce champ ne vous est point encore suffisamment connue et vous n'en voyez pas toute la préciosité qui pourrait changer dans votre vie si vous acceptiez l'évangile, si vous placiez votre foi en Jésus. Peut-être aussi avez-vous peur des implications de placer votre foi dans la personne de Jésus avec ce que cela implique en termes de renoncement, progressivement. Alors sachez une chose, Jésus en vaut absolument le coup, si on peut garder cette expression-là ce matin. Sachez aussi que ce que vous délaisserez pour le suivre, lui, vous le retrouvez au centuple avec Jésus. Et il ne s'agit pas de richesses matérielles, bien évidemment. Mais ne restez pas avec vos interrogations, ne restez pas avec vos craintes, avec vos doutes. Venez, parlez-en. Même dès la fin de ce culte, pourquoi pas pendant la semaine, si vous le souhaitez, parlons, discutons, prions ensemble et découvrons cet évangile. Car c'est là aussi ce qu'est l'Église pour chacun. Ce trésor, tel que nous l'entendons ici dans cette petite parabole, est trop merveilleux pour l'enfouir simplement et de repartir en laissant ce champ derrière nous avec l'idée qu'il y a un trésor là-dedans, mais qu'on ose estimer, qu'on ose vouloir acquérir et recevoir surtout. Il n'y a pas qu'une parabole dans le passage que nous avons lu, je vous ai dit, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, alors je fais un petit point un peu ici sur ces deux paraboles, beaucoup de commentateurs ont très souvent dit que la deuxième parabole, celle qualifiée de parabole de la perle, de grand prix, a finalement en fait le même message que la première et qu'il n'est donc pas nécessaire de trop s'y attarder. Parce qu'elle redit la même chose, dans un autre contexte, avec un autre personnage, et ce n'est plus un trésor, c'est une perle. Bon. On pourrait effectivement la lire rapidement, parce que c'est déjà assez court, et puis en plus d'y voir quelque chose de si semblable, et se dire, oui, bah c'est pareil. C'est un type qui vend tout encore, ce qu'il possède, parce qu'il a trouvé un truc précieux. Voilà, c'est bon, quoi. On a fait le tour, c'est bon. Autrement dit, ma prédication s'arrête ici. Non, j'ai encore un peu de choses à vous dire. Il vaut quand même la peine d'y regarder d'un peu plus près. Car si Jésus nous offre d'ailleurs, non pas une parabole, mais deux paraboles qui certes se ressemblent, c'est qu'il a une intention aussi, en donnant ces deux paraboles côte à côte. C'est qu'en les joignant, en les mettant côte à côte, elles viennent s'enrichir l'une l'autre. Aussi, pour bien saisir peut-être ce que Jésus veut nous enseigner à travers ces deux paraboles, je vous invite à en faire une petite comparaison maintenant, entre les deux textes, entre ces deux petites paraboles, et d'y voir un petit peu là où il y aurait des différences. Première chose, je regarde à la seconde, par rapport à ce qu'on a déjà entendu de la première, maintenant que nous la connaissons assez bien. Il y a une première différence, c'est qu'il y a dans la seconde une recherche. Dans la première parabole, rien n'est dit sur une quelconque recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme trouve un trésor. On ne sait pas comment, peut-être qu'il passe par le champ, il se cogne contre un truc, il tombe, et puis il regarde ce qu'il a fait tomber, et puis tout d'un coup il trouve sur un trésor. Ou encore toute autre hypothèse possible, mais peu importe, on ne sait pas. Il est juste dit qu'il le trouve, ce trésor. Mais dans la deuxième, il y a un marchand qui est à la recherche de perles. Il y a donc une intention chez ce personnage. Autre différence qui est notable. Or cela se voit moins parce que rarement on y prête attention, mais entre la première et la seconde, le temps des verbes change. Dans la première parabole, l'action de la vente se déroule au présent. L'homme va, il vend tout, il achète. Voilà. Ce qui rend l'histoire très, d'ailleurs très dynamique. Par contre, dans la seconde, l'action de vendre est au passé. Il semble que l'action soit déjà accomplie. Qu'on relate les choses après. Et puis surtout, autre différence que je tiens à noter et à vous relever ici encore. Il y a l'opération elle-même. Tout à l'heure, on l'a dit, le premier homme fait une découverte qui va le rendre riche de ce trésor. Il fait, pour lui, comme j'ai essayé de vous le dire, une opération incroyablement rentable. Car certes, il se dépossède de tout pour acheter ce champ qui coûtait beaucoup. Mais surtout, il y a ce trésor qu'il va avoir aussi pour le prix du champ. Le trésor, il est gratuit en fait. Il n'a jamais rien payé pour avoir ce trésor, le trésor lui est offert. C'est la belle surprise, le beau cadeau qui est renfermé dans ce champ. Autrement dit, et je le répète, le premier homme, lui, fait une opération incroyablement rentable car il est loin d'avoir acheté le trésor à son juste prix. D'ailleurs, jamais il n'aurait pu le faire, j'en suis sûr. Mais le marchand, lui, il achète la perle à son vrai prix. Au prix fort, au juste prix. Du coup, après avoir fait ces trois petites comparaisons, ces trois différences qu'on essaye de relever ici, des questions commencent à venir. C'est celles qui vont nous animer pour la suite de notre partage. Est-ce qu'on parle toujours bien de la même chose entre ces deux paraboles ? Si le trésor de la première parabole, c'est effectivement, comme nous l'avons dit, l'évangile qui est découvert et acquis grâce à une opération bien rentable. Qu'en est-il alors de la perle ? Peut-elle, elle aussi, à ce moment-là, représenter l'évangile, comme dans la première des paraboles ? Si c'était le cas, je me permets de le dire ainsi, parce que je pense que c'est ce qu'il faut comprendre dans la réflexion, cela voudrait dire qu'on pourrait acheter l'évangile à son juste prix. Rappelez-vous, le marchand a une intention, il recherche quelque chose, et il va l'acquérir directement, il ne va pas acheter quelque chose pour essayer d'avoir la perle. Mais nous le savons, dans notre foi, c'est impossible. Car si c'était le cas, cela voudrait dire que nous pourrions, par nos efforts, notre recherche, par nos propres moyens, accéder au royaume des cieux, accéder au salut. Donc nos œuvres nous donneraient accès au salut, si on lit la parabole dans ce sens-là, la seconde. C'est a priori, si ce n'est même sûr, contraire au message des Écritures, car le salut n'est que grâce, pure grâce, et seulement grâce. Ce qui ressort plutôt dans la seconde parabole, celle dite de la perle. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous proposer un autre titre, parce que je ne vais pas demander de raturer dans votre Bible le titre qui est affiché, mais il ne me semble pas convenir dans l'interprétation que je vous propose. Ce qui ressort dans cette deuxième parabole, c'est que le marchand fait une opération complètement délirante. Pourquoi ? Ici, ça ne se voit pas pour nous aujourd'hui en français, mais le terme qui dit marchand dans le texte original, dans le texte grec, quand il a été écrit à son origine, suggère d'ailleurs que ce n'était pas le petit marchand de la supérette ou de la petite échoppe juste à côté. Mais il s'agit ici plutôt du marchand au sens du grossiste, du négociant, qui donc n'a pas juste un petit magasin avec un fonds de commerce, mais a certainement un, voire des entrepôts, voire peut-être même des succursales ou je ne sais quoi. N'allons pas trop à exagérer, mais c'est bien plus conséquent que ce que l'on a peut-être imaginé quand on entend juste le mot marchand. Il devait avoir certainement du stock, des entrepôts, des moyens de transport, etc. Et donc là, dans cette deuxième parabole, il vend tout pour acheter une chose, qui n'est pas plus gros que ça d'ailleurs. Imaginez, vous vendez, pour ceux qui seraient entrepreneurs, toute votre entreprise, vous licenciez tout votre personnel, juste pour acquérir quelque chose qui soit de cette taille-là. J'exagère, hein, c'est la parabole qui joue de ces images. Il vend, oui, tout pour acheter une autre chose qui, d'ailleurs, paraît plutôt inutile. À quoi sert une perle ? Ben, pour moi, strictement rien. Vous ne me verrez jamais un jour acheter une perle. Pour moi, hein, je parle. Je grossis un peu le trait, mais la parabole joue de cela, il faut l'entendre. Oui, il vend tout, tout ce qu'il a fait. Tout le travail qu'il a accumulé, et certainement peut-être le travail de ses pères et de ses grands-pères et de tous ceux qui étaient là avant lui et qui lui ont rétrocédé ce qui a été son héritage. Tout cela, hop, pour acheter ceci. Une perle qu'il cherchait et qu'il a trouvée. Rappelez-vous, il avait cette intention-là. Et pour l'acquérir, il a sacrifié tout ce qu'il possédait. C'est vrai que là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Dans notre comparatif, vous avez parlé tout à l'heure du résultat de l'opération. Contrairement au premier homme, il n'est pas question d'ailleurs de joie pour le marchand. Ça n'est pas mentionné, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'est pas question de joie pour le marchand. Le texte ne nous dit pas non plus qu'il est malheureux. Mais l'absence d'une mention, d'une émotion, là où elle a été précisée dans la première, Jésus aurait pu le faire là aussi, nous fait comprendre que son geste était réfléchi, mûri, calculé, bien que pour nous, peut-être, incompréhensible. Alors tout cela nous demande peut-être de relire nos paraboles avec plus d'attention, d'y revenir, de les méditer, parce que parfois on file tellement vite dessus qu'on se dit « oui, c'est pareil, allez hop, je passe à la suivante ». Notez bien une chose, je ne sais pas si vous l'avez relevé, dans l'une et l'autre de ces deux paraboles, dans leur introduction respective, c'est très court, hein, il y a une différence majeure qui apparaît entre l'une et l'autre encore. La première, il est dit, le royaume des cieux est tout d'abord semblable à un trésor qui était caché dans un champ. Pour la deuxième, il est toujours question de paraboles du royaume. Tout le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu est axé sur des paraboles qui parlent du royaume des cieux. Pour la deuxième, l'intro, qu'est-ce qu'elle dit ? Il est dit que le royaume des cieux est semblable, pas une perle, à un marchand qui, etc., etc. Et oui, vous voyez comme parfois on va si vite qu'on ne voit pas la chose, et pourtant Jésus le dit. Oui. Méfiez-vous parfois un peu des titres, rarement quand même, ne vous méfiez pas de tout ce qui a été ajouté, mais les titres que l'on ajoute dans nos Bibles sont juste des éléments marquants, mais qui ne rendent pas tout à fait justice à l'histoire en elle-même. Ici, il ne s'agit pas d'une parabole de la perle. Qu'est-ce qui est au centre de cette parabole ? Qu'est-ce qui est vraiment ce vers quoi Jésus nous invite à regarder ? C'est le marchand. Moi-même, jusqu'ici, je vous ai dit, sans mes deux collègues, j'en étais toujours à cette même lecture que d'ailleurs beaucoup de commentateurs ont. Mais je pense que Jésus nous dit autre chose. Nous n'avons donc pas affaire à deux paraboles qui répètent le même message. Non, je pense que nous avons en effet affaire à deux paraboles qui nous représente ou présente la découverte du royaume de Dieu, des cieux, mais à partir de deux points de vue complémentaires, comme les deux faces d'une même pièce, si vous préférez. D'un côté, la première, nous avons le point de vue de l'homme qui trouve un trésor extraordinaire. De l'autre, nous avons le point de vue du marchand qui renonce à tout pour acheter la perle. Alors, puisque, apparemment, tel que je vous le présente, en tout cas ce matin, la deuxième parabole nous invite à regarder plus encore au marchand, davantage que pour la perle. Intéressons-nous à lui davantage. Qui est ce marchand? Voilà peut-être la grande question qu'il faut se poser sur cette parabole. Je vous donne ma réponse. C'est Dieu. Et je pense que peut-être vous voyez pourquoi je peux donner cette réponse-là. Et qu'est-ce que c'est que cette perle? Maintenant, on peut se la poser comme la question. C'est nous. Si on comprend cela, alors toutes les différences que je vous ai citées tout à l'heure, qui montrent les nuances que Jésus introduit volontairement, toutes les différences entre les paraboles trouvent leur explication. Écoutez un peu. La recherche du marchand souligne que Dieu avait un plan. Que cette acquisition n'avait rien du tout de fortuit. Je l'ai dit, il n'y a pas les émotions, etc. Et puis on voit que c'est au passé. C'était prévu, c'était prémédité. De toute éternité, Dieu désirait former un peuple, son peuple. Et ça, ce projet, une fois que l'homme a péché, nous l'entendons aussi dans la solution que Dieu va apporter dès Genèse 3, verset 15, je crois. Puis, je reviens encore sur ce que j'ai dit, puis le temps au passé pour la vente et l'achat montre qu'il s'agit de quelque chose d'acquis, d'accompli, une fois pour toutes. L'achat a déjà eu lieu. Christ est mort sur la croix et par cette mort, il nous a rachetés, délivrés de nos esclavages, de notre péché. Il a déjà payé le prix. Voyez ce que peut signifier aussi cette parabole. C'est très très riche. Et dernière petite chose encore, pour rebondir sur ce que j'avais proposé tout à l'heure, et justement le prix de cette perle. Vous avez vu, le marchand ici doit donner encore plus. Il se sépare de beaucoup plus encore, même si dans chacun des deux cas, c'est coûteux. Mais le prix, le coût de l'opération pour le marchand, dans cette deuxième parabole, trouve aussi son sens. Si on comprend que c'est Dieu qui fait cette opération un peu folle, le message de cette parabole, c'est que Dieu s'est dépouillé de tout pour nous acquérir au prix juste, au prix fort. Et nous savons ce que cela signifie. Quand nous connaissons Jésus, quand nous savons aussi ce que le Père a eu pour projet en accord avec le Fils pour nous. Et c'est bien cela que nous annonce l'Évangile, n'est-ce pas? Cet Évangile que l'on peut résumer en un verset que tout le monde d'ailleurs, ou presque, je l'espère, connaît bien. Je vais vous donner le début, je vais vous laisser le finir, je suis sûr que vous allez y arriver, vous allez voir. Dieu a tant aimé le monde. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il se dit après? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la référence déjà? Voilà. En général, un évangélique, on ne peut pas le coller sur ce verset-là. Oui, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils. Voilà le message de la deuxième parabole. Ce message, c'est ce qu'a découvert l'homme dans son champ. Et c'est là où on voit que les deux paraboles se rejoignent et se complètent. C'est cette vérité-là, cet évangile-là, l'évangile de l'amour de Dieu pour lui, l'évangile du sacrifice de Jésus pour lui, qu'il va trouver dans ce champ. Pour rester dans la métaphore, dans la parabole. L'évangile du coup inestimable, trop grand, dépensé par Dieu pour lui. Voilà pourquoi il a tout vendu. Cet homme-là, de la première parabole, pour acheter le champ, parce que le champ contenait ce trésor-là. Un trésor qu'il ne pourrait jamais s'acheter. Mais Dieu lui donne la possibilité, s'il est prêt à renoncer à tout ce qui peut-être jusqu'ici le retenait, de pouvoir être et de garder ce trésor. Or j'en viens à presque conclure, mais il me reste encore quelques questions, dont une grande. Parce qu'il y en a une pour nous aussi, dans tout cela. Et quelle est cette grande question pour nous? J'essaie de vous la formuler. Pourquoi Dieu a-t-il fait une telle folie? Parce que franchement, la parabole, si on regarde le marchand, on dit, ça va pas la tête. Hein. C'est une folie. Pourquoi Dieu a-t-il fait une telle folie? Pourquoi Dieu a-t-il donné son propre fils pour nous? Pourquoi Jésus a-t-il volontairement choisi la croix, le sacrifice, pour que nous puissions être achetés, acquis par Dieu? La seule réponse possible à cet ensemble de questions, qui n'en est qu'une grande, hein, c'est aussi la plus incroyable, la plus difficile à admettre. La seule réponse possible, c'est que nous sommes, et écoutez-le bien, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes cette perle qu'il a tant cherchée. Aux yeux de Dieu, chacun de nous ici est cette perle précieuse, une perle de grand prix, une perle que Dieu a ardemment recherchée. Oui, toi, je ne vais pas tous vous désigner, chacun d'entre nous. Même peut-être toi qui es ici, que je ne connais peut-être pas encore assez, quoique, qui ne t'aime pas trop. Je pense qu'on est tous parfois un peu là encore. Toi qui ne te penses pas aimable, toi qui n'as rien à offrir, toi à qui on a toujours dit peut-être aussi que tu n'étais pas grand-chose ou rien du tout, et que tu n'avais pas de valeur. Toi peut-être aussi, pour d'autres raisons qui va d'échec en échec, toi aussi aux yeux de Dieu. Tu es une perle de grand prix. Une perle qui a tant de valeur à ses yeux qu'il a donné son fils unique. Alors peu importe ce que tu es, ce que tu crois valoir, peu importe même ton CV, qu'il soit bien rempli ou ne possède qu'une ou deux lignes qui dit « j'ai mon brevet du collège » et encore, peu importe aussi tes accomplissements, peu importe ton statut social ou que sais-je encore, de ce que même te renvoie la société quand tu essaies de te comprendre ou de t'évaluer, entendez-le bien, pour chacun, vraiment chacun, pour Dieu, tu es une perle inestimable. C'est ça aussi le message de cette deuxième parabole. Et c'est ça le message de l'Évangile. Voici donc... Tu voulais dire quelque chose ?
Oui,
oui. Je te réponds. On est dans une parabole. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué avant, parce qu'une parabole, dans une parabole, c'est une histoire qui cherche à pointer vers une réalité. Mais tout dans une parabole ne doit pas être trop interprété. C'est une histoire qui pointe vers une chose. Ici, l'idée de cacher n'est pas là pour montrer un défaut chez l'homme qui va après vouloir acquérir ce trésor. Elle est juste là pour montrer, mais ce n'est pas vraiment l'accent, hein, donc il ne faut pas trop s'y arrêter, que pour lui, c'est tellement important qu'il lui faut être le premier à l'avoir. J'exagère, c'est juste ça. Donc il ne faut pas surinterpréter certains aspects d'une parabole, rechercher là où il y a le message et laisser le reste parce que c'est juste toute la chair pour construire l'histoire, mais qui n'a pas forcément d'importance dans le message en lui-même. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter sur cet aspect-là, il n'est pas essentiel à la parabole dans ce qu'elle veut dire. Voilà. J'en viens à conclure alors, si vous le permettez. Voilà donc les deux messages de ces deux paraboles qui, quelque part, nous forment un seul et grand message. Nous avons découvert, je l'espère, ou pour bientôt, je l'espère aussi, un évangile extraordinaire, un trésor inestimable. Et c'est ce qui rend justement ce trésor si inestimable, c'est de réaliser que Dieu lui-même a tout donné pour nous l'offrir. Le message de ces paraboles, c'est que nous avons découvert un trésor, l'évangile du salut de Jésus-Christ. Mais que c'est Dieu lui-même qui nous a cherchés. Alors, en retour, puisque nous recevons tout de lui, et que ce trésor, nous ne pouvons pas l'acquérir par nos propres efforts, puisque nous lui devons tout, nous lui donnons tout, et nous le suivons en nouveauté de vie. Cette vie qu'il nous offre, cette vie pleine de joie. Or, est-ce que cela, nous le reconnaissons aujourd'hui? Où en sommes-nous dans ce chemin? Avons-nous déjà, cherché à tout abandonner, à essayer de tout remettre pour vraiment jouir de ce trésor enfin? Est-ce que nous sommes parvenus à arriver sur ce champ et puis bizarrement, on découvre ce trésor qui est là? Ou est-ce qu'on est déjà en train de le cacher parce que on est en chemin, on veut vraiment s'approcher de Jésus et on est prêt à vouloir tout abandonner, à passer à autre chose et vraiment d'être avec lui? Je ne sais pas, vous en êtes chacun, mais sommes-nous conscients aussi, et c'est ma dernière phrase pour chacun d'entre nous, sommes-nous conscients de la valeur inestimable du trésor qui se trouve là devant nous? Et je vais encore redire une dernière chose parce que ça me semble si important. Rappelez-vous aussi ce que veut dire encore cette deuxième parabole. Et là-dessus, je m'arrête, promis. Pour Dieu, chacun d'entre nous est une perle inestimable. Ouais. Je vous propose qu'on puisse se recueillir et faire silence suite à ces deux paraboles. Seigneur, nous voulons te remercier pour chacun des enseignements que tu as donnés en ton temps à ces foules, à ces disciples qui étaient là et que nous pouvons encore lire, relire et comprendre grâce à la sagesse aussi que nous donne ton esprit. Merci pour ces deux précieuses paraboles qui nous rappellent qui tu es, à quel point tu nous aimes et à quel point tu nous as aimés. Toi, notre Père qui a donné ce que tu avais de plus précieux. Et toi, Jésus, parce que tu as désiré t'offrir pour nous en sacrifice. Oui, merci Seigneur, parce que tu demeures et tu seras toujours ce Dieu-là, celui qui a tout fait pour nous. Et merci Seigneur, parce qu'en plus ce trésor, qu'est la grâce de ce qu'a accompli ton Fils pour nous, tu nous l'offres. Il est tel ce trésor que nous ne pourrons jamais acquérir, et que nous ne pouvons que recevoir, en acceptant simplement d'avancer humblement devant toi, de vouloir aussi nous défaire de ce qui parfois nous retient, et de posséder, entre guillemets, ce trésor que tu es. Seigneur, merci parce que cela dit l'étendue de ton amour pour nous, un amour qu'on ne mérite pas, mais un amour qui est pure grâce. Aussi, Seigneur, reçois notre humble reconnaissance, reçois aussi notre amour en retour, car tu es un Dieu que nous ne pouvons que glorifier encore ce matin. Amen.